Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, la bataille des puces et des titans a commencé. Les puces électroniques et les titans que sont la Chine et les États-Unis. Nous allons à Pékin dans un instant pour voir la réplique chinoise après la décision de Google, notamment de couper les ponts avec Huawei, le numéro 1 chinois des télécoms. Dans l'affaire Vincent Lambert, les traitements ont repris. C'est ce qu'annonce à l'instant, selon l'agence France Presse, l'avocat des parents de Vincent Lambert. Décision de la Cour d'appel de Paris. Cet arrêt de la Cour d'appel a profondément étonné la plupart des juristes qui suivent ce dossier. Un enseignement de l'affaire pour nous tous. Il faut rédiger des directives anticipées pour que les médecins et nos proches sachent quoi faire s'il nous arrive malheur. Une pièce qui avait été censurée se jouera finalement bien aujourd'hui à la Sorbonne. Les suppliantes d'Eschyle, des militants avaient empêché sa tenue parce que les personnages venus d'Afrique étaient représentés avec des masques noirs. Le metteur en scène de la pièce, le spécialiste de la Grèce antique Philippe Brunet, est notre invité. Dans ce journal encore, des étudiants de l'Université catholique de La Roche-sur-Yon, convoquée après une agression homophobe. Lola, étudiante de cet établissement.
Dans ma tête, sur le coup, ce que j'ai pensé, franchement, c'est j'ai limite honte en fait de mon établissement.
Les détails tout à l'heure. Oui, les gilets jaunes avaient raison. Le contrôle technique automobile coûte nettement plus cher depuis l'année dernière. Manuel Ruffez a les chiffres. Alitalia peut-il sortir du rouge? Les salariés sont appelés à la grève aujourd'hui pour secouer le gouvernement italien. Et puis dans ce journal encore, la culture loin de Paris, le festival de Cannes bien sûr, mais aussi le musée des Beaux-Arts de Dijon. Bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour.
Il rouvre, Isabelle, après une longue période de travaux, ce musée.
10 ans de travaux pour l'un des plus anciens musées du monde qui entre magistralement dans le 21e siècle avec ses chefs-d'œuvre.
Nous écouterons votre reportage. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour à tous.
Météo France, ça s'arrange un petit peu, mais...
Mais effectivement, des éclaircies de plus en plus belles et même un après-midi ensoleillé sur les plages, mais il faut quand même s'attendre à des passages d'averses. On a déjà les premières averses actuellement entre le Poitou, le Limousin, la Lozère, mais aussi en Île-de-France et en Alsace. Cet après-midi, les averses seront surtout nombreuses et même orageuses entre le bassin parisien, le massif central et le nord de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que sur les Alpes, l'est des Pyrénées. Puis quelques gouttes sont aussi possibles sur le nord de la Corse et vers la Côte d'Azur. Côté température, ça monte, on retrouve des valeurs de saison, 16 à 25 degrés.
Merci Sébastien, d'autres détails tout à l'heure. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Un choc de titans est en cours depuis hier. Amérique contre Chine et deux de leurs marques les plus emblématiques, Google contre Huawei. Il faut freiner la montée en puissance de la Chine. Voilà l'un des fils rouges de la politique de Donald Trump, l'un des rares d'ailleurs, qui fasse à peu près consensus à Washington. Dernière mesure en date, interdire aux entreprises américaines de vendre des équipements de pointe à Huawei, le géant chinois des télécoms, numéro 2 mondial, soupçonné d'espionnage au profit de Pékin. Google obéit et annonce un service minimum avec le chinois, Intel devrait suivre. Pour certains spécialistes, Huawei est en danger de mort car il est très dépendant de la technologie américaine. Bonjour Dominique André. Dominique André, correspondante de France Inter à Pékin. Est-ce que nous
bonjour.
L'avons... Bonjour Dominique. Nous avons commencé hier à parler du choc des titans.
Bruno.
Quelle réplique chinoise, Dominique?
Bien, ce matin, le fondateur du groupe chinois Zhen Zhangfei a donné une série d'interviews à la presse nationale pour tenter de rassurer. D'abord, des discussions sont en cours entre Google et Huawei, a précisé donc le numéro 2 mondial des smartphones, qui a voulu se montrer aimable avec le géant informatique américain. Google est une bonne entreprise, a-t-il dit, hautement responsable. On cherche une réponse, on est en discussion, a précisé Monsieur Zhen. Pour lui, la décision de Donald Trump est donc sans signification. Mais le dirigeant du groupe chinois a voulu se montrer aussi plus menaçant avec un avertissement. Le personnel politique américain montre qu'il sous-estime notre force. On ne pourra pas nous isoler du reste du monde. Et nous avons des solutions de rechange, a prévenu Monsieur Jeune. Alors les conséquences d'une rupture des liens entre Huawei et Google concerneraient surtout les consommateurs en dehors de la Chine, car les services de Google, notamment les applications Gmail et Google Maps, sont censurés, sont interdites ici en Chine. Et puis le fait que Huawei soit devenu la bête noire de Washington soulève aussi la colère des nationalistes en Chine, avec une presse et des réseaux sociaux qui sont vent debout contre la décision de Washington.
Merci Dominique. André en direct de Pékin. Alors les États-Unis ont donc fait un petit geste ces dernières heures. Ils laissent 3 mois aux Chinois pour s'adapter. Quelles seront les conséquences de ce qui ressemble bel et bien au début d'une guerre technologique? Adrien Toffolet a posé la question au spécialiste des nouvelles technologies Thomas Husson. Il n'y a pas que Google d'impliqué dans l'affaire, loin de là.
c'est pas simplement une entreprise, c'est l'ensemble des entreprises américaines qui, de près ou de loin, seraient amenées à travailler avec Huawei et le secteur tech et même plus largement chinois. Donc, tous les composants, par exemple, tous les composants électroniques qui rentrent dans les smartphones, donc toute la chaîne de valeur est impactée potentiellement.
Est-ce qu'il y a une dépendance plus importante côté américain ou côté chinois ?
Je pense que la dépendance, elle est quand même surtout du côté de Huawei. Après, c'est vrai qu'en termes de distribution des services Google, on parle quand même d'un parc de terminaux qui est extrêmement conséquent, hein, puisque Huawei est numéro 2 mondial en volume et souhaite ravir la place de numéro 1 à Samsung. Sur la partie composants, je pense que Huawei est moins dépendant, au sens où il y a d'autres sous-traitants, dont une de ses propres filiales, auprès de laquelle il pourrait davantage s'approvisionner.
Et les malheurs des uns font le bonheur des autres. Les actions de Samsung, grand concurrent de Huawei, ont pris 3% ce matin à Séoul. À travers cette bataille, c'est aussi le sort de la 5G, la toute dernière technologie mobile qui se joue. Huawei est parmi les plus en avant, si ce n'est le numéro 1, dans l'exploitation de cette technologie. Alors, est-ce que le chinois sera écarté du marché français ? Pas d'a priori, répète ce matin le ministre de l'économie. Le choix des équipementiers télécoms pour le déploiement de la 5G en France se fera en fonction de la sécurité des réseaux et de leur performance. L'autorité des télécoms, de son côté, affirme que la France lancera bel et bien la 5G comme prévu l'année prochaine. Nous parlions de Bruno Le Maire à 5 jours des européennes. Il joue sur le registre « L'heure est grave ». Jamais l'euro n'a été aussi menacé, dit le ministre de l'économie, entre guerre commerciale et dirigeants européens qui souhaitent la fin de la monnaie unique. L'Europe, justement, et Alitalia, la compagnie aérienne italienne. Cela fait des années que ce symbole national ne sort pas du rouge. 11 000 salariés et un appel à la grève aujourd'hui pour presser le gouvernement de trouver une solution pour cette compagnie qui est sous tutelle. France Inter à Rome, Mathilde Imberti.
La compagnie nationale aérienne au bord de la faillite est placée sous administration extraordinaire depuis que le personnel a rejeté un premier plan prévoyant la suppression de 1700 emplois. Cela remonte à 2 ans et depuis, les candidats sérieux se font désirer. À ce stade, il y en a un, principal et solide, Ferrovie dello Stato, la compagnie ferroviaire nationale. Elle prendrait 30% d'Alitalia, Delta Airlines serait prête à acquérir 15 autres %, le ministère de l'économie compléterait dans la même mesure. Il manque encore des partenaires donc pour les 40% de capital restant. Le délai pour la présentation de cette offre a été repoussé au 15 juin. Si elle échoue, la liquidation se rapprocherait. Alitalia, trop centrée sur le réseau court-courrier, n'a pas su faire face à la concurrence des low-cost. Elle compte encore 11 000 salariés, appelée donc à cesser le travail aujourd'hui. L'emblème national à l'arrêt, voilà qui n'arrange pas les affaires du gouvernement d'Alliance et en particulier de Luigi Di Maio, vice-président du Conseil, leader des 5 étoiles et ministre de l'économie, censé trouver une porte de sortie pour la survie d'Alitalia. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Et la moitié des vols nationaux et internationaux d'Alitalia sont annulés aujourd'hui. L'Europe du foot et cette dernière minute à l'instant, le champion du monde français Olivier Giroud prolonge avec Chelsea jusqu'à l'année prochaine, annonce le club et l'agence France Presse. Hier, à peu près à la même heure, à l'hôpital de Reims, les médecins avaient commencé à interrompre les traitements appliqués à Vincent Lambert. 24 heures plus tard, ils ont commencé à les reprendre sur ordre de la Cour d'appel de Paris. Lisa Guyenne, vous êtes l'envoyée spéciale de France Inter dans cet hôpital de Reims qui vit des heures décidément folles. Le ballet des journalistes et des avocats continue, les parents puis les avocats de ces parents de Vincent Lambert ce matin.
Oui, les avocats sont arrivés vers midi et quart et c'est d'abord maître Jean Payot qui a pris la parole, affirmant que l'hydratation et l'alimentation de Vincent Lambert avaient été rétablies dans la matinée.
C'est la confirmation de notre victoire d'hier. Le gouvernement a plié, le docteur Sanchez a plié, le CHU de Reims a plié. Désormais, les mesures provisoires réclamées par le comité de l'ONU sont respectées.
Une victoire célébrée hier soir à Paris devant une foule de sympathisants. Les avocats, euphoriques devant les caméras, ont même employé le terme de « remontada », une image qui a choqué sur les réseaux sociaux notamment, mais que maître Jérôme Triomphe assume.
Ceux qui nous reprochent ces scènes de liesse sont ceux qui voulaient assassiner Vincent Lambert. Et aujourd'hui et hier, nous étions des avocats heureux. Nous étions des avocats fiers de notre travail et nous avons manifesté spontanément cette joie.
Jérôme Triomphe qui a aussi dénoncé l'indignité selon lui de l'hôpital et le traitement réservé aux parents de Vincent Lambert depuis plusieurs années en critiquant les médias au passage.
Je rappelle que ses parents, Viviane, Pierre, David et Anne, mais en particulier Viviane, ont été traînés dans la boue, conspués. Ils ont été traités de tous les noms eh bien cela, il faudra également que vous, médias, faisiez un examen de conscience par rapport à tout cela.
Et de conclure, notre combat à présent, c'est de faire transférer Vincent dans une unité spécialisée pour les handicapés.
Merci Lisa, avec Christophe Papon en direct de Reims jusqu'à hier soir, tous les recours des parents de Vincent Lambert, qui est dans un état végétatif irréversible. Selon les experts, tous les recours avaient été rejetés. Seul le comité de l'ONU pour le droit des personnes handicapées avait plaidé pour le maintien de l'alimentation et de l'hydratation. Hier soir, coup de tonnerre, Corinne Audouin, la Cour d'appel de Paris demande à la France de suivre l'avis de ce comité de l'ONU. Cet arrêt de la Cour d'appel surprend et divise les juristes.
Oui, quelle que soit l'opinion des uns et des autres sur le cas Vincent Lambert, la décision rendue hier soir par la Cour d'appel de Paris a énormément surpris les juristes. Petit rappel, le 3 mai, le comité des droits des personnes handicapées, rattaché à l'ONU, demande qu'on n'interrompe pas les traitements de Vincent Lambert le temps d'examiner le recours formé par ses parents. L'État refuse. Le 15 mai, le tribunal administratif de Paris dit qu'en effet, ces demandes ne sont pas contraignantes. 5 jours plus tard, la Cour d'appel dit le contraire. De quoi en perdre son latin, explique Nicolas Hervieux, spécialiste des droits de l'homme et professeur à Sciences Po.
C'est une décision qui s'inscrit en contradiction avec la jurisprudence classique des juridictions suprêmes, que ce soit sur la question spécifique de la fin de vie ou encore sur la question de la compétence du judiciaire pour intervenir dans ce domaine. En réalité, dans ce dossier, comme souvent, la seule certitude que l'on a, c'est qu'il n'y a aucune certitude pour l'avenir.
Et l'affaire Vincent Lambert est même déjà devenue un cas d'école pour les étudiants en droit. Que peut-il se passer maintenant? Sans doute un recours en cassation de l'État ou de l'hôpital, dont l'examen devrait prendre plusieurs mois.
Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Cette affaire Vincent Lambert, Daniel, vous la suivez de près depuis quelques années comme spécialiste des questions de médecine à France Inter. Parmi les enseignements de ce dernier coup de théâtre, il y en a eu beaucoup toutes ces années, cette bataille vient notamment du fait que Vincent Lambert n'avait pas laissé de directive anticipée.
Oui, mais il faut se rappeler qu'il avait 32 ans au moment de son accident et que les personnes jeunes rédigent rarement des directives anticipées. De plus, c'était il y a 10 ans, bien avant la dernière loi sur la fin de vie. Justement, les choses ont un peu bougé. Le docteur Vincent Morel est spécialiste des soins palliatifs au CHU de Rennes.
La situation de M. Lambert, vraiment, elle doit nous inciter à oser dire ce que nous aimerions le jour où nous ne serions plus en capacité de nous exprimer. C'est sur ce constat qu'a été modifiée la loi Leonetti dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti, où les directives anticipées et la personne de confiance ont pris une plus grande place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les directives anticipées, si elles sont écrites, elles s'imposent. Alors, sauf exception, une des exceptions, par exemple, c'est la personne qui fait une tentative de suicide et qui écrirait qu'elle ne veut pas être réanimée. Cette personne, les médecins vont la réanimer. Mais c'est une exception, car le principe général, et en pratique, c'est fait en permanence, les directives anticipées sont appliquées.
Les directives sont appliquées, est-ce qu'on en est sûr, Daniel?
Ah, vous avez raison de poser cette question, on ne peut jamais répondre à 100%, évidemment. Et certes, il y a une formation, une information sur la loi très urgente à faire auprès des médecins. Mais le docteur Vincent Morel relaie toutefois ce qui se passe dans la majorité des situations.
La volonté de tous les médecins, c'est d'aller dans le sens de ce que souhaitent les patients. Qu'est-ce qu'auraient souhaité les patients? Notre avis importe peu. Alors, lorsqu'il peut s'exprimer, c'est simple. Lorsqu'il ne peut pas s'exprimer, il est vrai que lorsque nous avons des directives anticipées, nous sommes considérablement aidés. Lorsque nous avons un référent ou une personne de confiance, nous sommes aussi extrêmement aidés. Et puis, si nous n'avons ni directive anticipée, ni personne de confiance, nous allons rencontrer et discuter avec les proches pour avoir le sentiment de ce qu'aurait pu dire le patient.
Il reste que 40% des Français seulement savent que la loi a mis en place les directives anticipées et seulement encore 13% des plus de 50 ans les ont rédigées. Donc directives anticipées écrites, personne de confiance, les deux, vous avez le choix, ce n'est pas une obligation, mais un droit dont il serait dommage de se passer.
Quand on parle d'homophobie ordinaire, la dernière scène du genre se passe à La Roche-sur-Yon. Des étudiants de l'ICES, la fac privée, l'Institut catholique d'enseignement supérieur, s'en sont pris au stand LGBT de Vendée samedi dernier. Reportage Marc Bertrand.
Lola, première année de licence, a été choquée de voir des étudiants qu'elle croise dans les couloirs scander un slogan homophobe.
Dans ma tête, sur le coup, ce que j'ai pensé, franchement, c'est j'ai limite honte en fait de mon établissement, quoi.
Ces étudiants ne représentent pas du tout la majorité à l'ICES, dit-elle, mais elle ne peut pas dire que ça l'étonne vraiment.
L'esprit en fait de l'ICES, en général, j'ai un peu de mal. Il y a certaines pensées qui ressortent, qui sont contre les homosexuels, contre l'avortement. Beaucoup de personnes ont des pensées totalement différentes des miennes.
Et ce n'est pas difficile de trouver des étudiants pour dire que non, ce qui s'est passé samedi, ça ne les choque pas. Erwan, par exemple, il est en Master 2.
J'en pense que c'est une action de rue. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle a les répercussions qu'elle a eues. Après, Pour l'action en elle-même, non, je ne la condamne pas tellement.
Crier homopholie à 15 en arrachant le drapeau arc-en-ciel, pour lui ce n'est pas de l'homophobie. Ce n'est pas comme s'il y avait coups et blessures, dit-il. D'ailleurs, selon Edouard, les étudiants impliqués ont même été surpris que la direction condamne leur acte.
C'est vrai que j'ai vu leur tête hier. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ils ne s'attendaient pas à ce que ça prenne une telle ampleur. Ils venaient nous voir nous en tant que juristes pour savoir ce qui pouvait leur arriver. Je pense que vraiment, ils ont compris ce qu'ils risquaient. Je crois que ça les a bien calmés, quoi.
La douzaine d'étudiants concernés passera en conseil de discipline la semaine prochaine.
La réputation de l'établissement est donc mise en cause. Parole au directeur de l'ICES, il s'appelle Éric Delabarre.
De fait, il y a dans cet établissement une poignée de militants engagés à droite ou très à droite et qui, effectivement, pèsent par moments sur l'établissement. Et les étudiants, certains étudiants dans l'établissement s'en plaignent. Que des jeunes qui sont engagés à la droite de l'échiquier politique français puissent s'exprimer ici en contradiction avec d'autres, moi, ça ne me pose pas de problème. Ce qui est inacceptable, c'est toute activité violente. Leurs débordements ont été exemplaires et donc les sanctions le seront également.
Et le maire de La Roche-sur-Yon appelle à un rassemblement contre l'homophobie et les discriminations vendredi prochain. C'était un sujet de vie quotidienne de pouvoir d'achat qui avait contribué à mettre dans la rue les gilets jaunes. Le contrôle technique automobile, une réforme de mai dernier, en a augmenté le prix, disait-il. Eh bien, selon un site spécialisé, ils avaient raison. Manuel Ruffez, vous êtes avec nous pour en parler. Manuel, selon une étude de ce site qui s'appelle simpleauto.com, étude menée sur plus de la moitié des centres de contrôle en France, les prix ont augmenté de plus de 12%. En chiffres ronds, tarif moyen d'un contrôle, il est passé de 69 à 78 euros.
Exact, et personne ne conteste ces chiffres, pas même les professionnels. Mais ils vous expliquent tout de même, ces professionnels, que depuis 10 ans, les tarifs ont très peu augmenté. Et que ces contrôles, relativise Bernard Bourrier, le président des métiers du contrôle technique, ce n'est que tous les 2 ans.
On dit que le contrôle technique c'est trop cher, excusez-moi, mais le contrôle technique ramené dans sa réalité, c'est à peu près 2,70 € par mois. Je comprends aisément les gens qui parlent de pouvoir d'achat, de difficultés économiques, mais je pense qu'il faut aussi ne pas se tromper de cible.
Et c'est donc surtout la réforme de mai dernier qui effectivement justifie ces augmentations en application d'une directive européenne. Plus de points de contrôle, plus de défaillances potentielles à relever, avec des conséquences pour les 12 000 salariés du secteur.
Il a fallu former tous les contrôleurs existants pour l'évolution de la réglementation et les nouveaux. Ceux qui rentrent depuis ont des prérequis supérieurs, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'accès à la profession nécessite d'être titulaire d'un bac pro. Antérieurement, nous avions des recrutements qui se faisaient sur la base d'un CAP et de 5 ans d'expérience.
Et Bernard Bourrier fait aussi valoir que le contrôle technique, c'est avant tout pour éviter qu'un véhicule devienne un danger sur la route ou pour la santé publique.
Merci Manuel Ruffez. En bref, l'affaire du fichage chez Monsanto, on vous en parlait il y a quelques jours dans ce journal. Eh bien, Bayer, propriétaire de Monsanto, annonce que 7 pays européens en tout sont concernés, 7 pays dont la France.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
C'était fin mars, on devait jouer à la Sorbonne la pièce d'Eschyle, le grand tragédien de la Grèce antique, Les Suppliantes. Cette pièce avait été censurée, empêchée par l'intervention de militants antiracistes du CRAN, de l'UNEF, le syndicat étudiant, ou militantes féministes de la BAF. L'histoire de la pièce, rappelons-la, c'est celle des Danaïdes, filles venues d'Égypte, d'Afrique. Donc, elles fuient leurs cousins qui veulent les épouser de force et demandent asile aux Grecs d'Argos. Les Égyptiennes, dans la mise en scène de la Sorbonne, devaient être représentées avec des masques sombres pour représenter la peau noire. C'est de cela que les militants ne voulaient pas. Ils assimilaient cela à du blackface, la pratique qui consiste à se déguiser en noir pour s'en moquer. La censure avait choqué dans le monde de la culture et au-delà. Le ministre de la Culture, Franck Riester, mais aussi la metteuse en scène Ariane Nouchkine était montée au créneau. Eh bien, la pièce se jouera bel et bien aujourd'hui et son metteur en scène est avec nous au téléphone. Bonjour Philippe Brunet.
Bonjour.
Helléniste, professeur à l'université de Rouen, metteur en scène aussi, donc dans le cadre du théâtre Démodocos. Est-ce qu'à un moment, Philippe Brunet, vous vous êtes dit non, la pièce ne pourra pas se jouer?
C'est-à-dire, au plus fort du blocage le 25 mars, évidemment, on s'est bien rendu compte que ça a été difficile. Le public était bloqué d'un côté, les comédiens de l'autre. Et donc, oui, là, on s'est bien rendu compte que c'était impossible. Les militants ne voulaient pas s'asseoir pour voir le spectacle. On leur proposait de jouer. Ils exigeaient de voir préalablement les masques. Et ils étaient comme ça, dans une espèce de police de la censure. Et donc, Oui, à ce moment-là, c'est sûr que c'était très difficile.
Est-ce que vous avez modifié des détails dans la mise en scène depuis fin mars ou pas? Ou est-ce qu'elle se jouera telle qu'elle devait se jouer fin mars?
Oui, vraiment exactement pareil, à part une petite barbe que j'ai rajoutée à l'un, mais sinon c'est vraiment les masques qui étaient prévus pour le 25 mars. Par contre, le 25 mars, nous avions changé, parce que c'était devenu un projet de tragédie avec des masques, alors qu'au départ, c'était une tragédie maquillée.
Pourquoi est-ce que c'est important de tenir bon?
Pourquoi c'est important de tenir bon? Écoutez, si, par exemple, nous, on joue les Perses depuis l'année 2001. Ouais. Nous sommes un groupe, une troupe parisienne, rouennaise aussi, à l'époque était même Tourangelle. Et on accueille dans toutes sortes de gens, de toutes langues, de toutes origines. Si nous ne pouvons pas jouer les Perses, et si seuls des descendants des Perses peuvent jouer, à ce moment-là, il y a quand même un problème. Et donc c'est vraiment la question qui se pose. Est-ce que il nous est interdit de jouer ces Égyptiens, ces Égyptiennes, dont personne ne sait, connaît exactement la couleur de la peau, mais dont Eschyle dit qu'elles sont sombre, foncé, noir. Enfin, voilà, donc, est-ce que vraiment, si nous faisons cela, c'est dans le but de dénigrer, voilà, donc il y a un problème, une difficulté. Tous les gens de couleur sont bienvenus dans notre troupe. Tous, ils ont leur place et nous sommes très heureux de travailler avec tout le monde et nous sommes un mélange de gens. Donc, nous estimons pouvoir jouer un mélange de pièces.
J'ai l'impression, là, à vous entendre, ce que je perçois, c'est que près de 2 mois après, vous n'en revenez toujours pas qu'il y ait eu cet acte de censure.
C'est-à-dire qu'il y avait une telle, incompréhension. Hein. C'est très, très difficile et après la censure, la violence ayant été ce qu'elle a été, c'est très difficile de discuter. Et avant, de toute façon, les arguments étaient tellement péremptoires qu'il fallait de toute façon ou bien passer sous les fourches codines ou bien nous en aller. Voilà. Donc retirer les masques, renoncer à l'opposition qu'avait voulu Eschyle. Donc on était vraiment dans un cas de censure. Donc est-ce que vous êtes pour la censure? Est-ce que nous sommes pour la censure? C'est ça la question.
Et est-ce que le metteur en scène que vous êtes doit tenir compte au fond d'une sensibilité sociale, un humour, une façon de mettre en scène des maquillages, des masques peuvent être socialement acceptés à un moment et pas à un autre moment? Est-ce que ça, on doit en tenir compte ou pas?
Écoutez, on peut tenir... Est-ce que c'est une sensibilité sociale ou est-ce que c'est une fabrication de certains militants? C'est ça la question. Oui. Lorsque je parle avec des Africains, qui de loin ont entendu toute l'affaire, ils rigolent, ils plaisantent. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait en France? On invente n'importe quoi. Et pourquoi empêcherait-on les Noirs de se maquiller en blanc et les Blancs de se maquiller en noir? C'est simplement une absurdité. Donc, si on veut absolument casser le théâtre, détruire ce qui fait quand même un des socles de notre culture, le fait de pouvoir raconter des histoires, de pouvoir se muer en quelqu'un d'autre, de pouvoir jouer des personnages différents, à ce moment-là, oui, il faut faire ça. On fait peser un tabou sur le corps, et si on écoute les gens qui veulent faire peser un tabou sur le corps, on n'a plus qu'à...
En tout cas, à fermer boutique.
Oui, c'est ça.
Les détails pratiques, Philippe Brunet, oui. À quelle heure se joue la pièce? Est-ce que tout le monde peut y accéder et elle se jouera où précisément?
Non, il n'y a pas eu de billetterie ouverte, okay. Malheureusement, je le déplore. J'aurais souhaité qu'il y en ait une et donc ça a été fait sur invitation. On a invité bien sûr tous ceux qui n'avaient pas pu voir le spectacle, les gens de couleur et les non colorisés, comment il faut dire. Je tiens pas à employer le vocabulaire en vogue dans les milieux identitaristes. Et donc effectivement c'est plein, ce sera le grand amphi sera plein comme un œuf.
Le grand amphi de la Sorbonne. Oui. Merci, là vous êtes en pleine répétition, merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Bonne journée à vous Philippe Brunet. Allez, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec le Festival de Cannes pour notamment entendre Isabelle Huppert en anglais.
There's people in the hotel, you know. They can take pictures.
That's okay. I'm very photogenic.
Tout petit extrait du film d'Ira Sachs, Frankie, avec donc Isabelle Huppert. Bonjour Eva Bettan.
Bonjour.
Alors il y a 2 films, Eva, dans votre mire aujourd'hui, les 2 en course pour la Palme d'Or. Et le point commun, c'est que les cinéastes sont sortis de leur pays. Ira Sachs, donc, pur New-Yorkais qui a tourné au Portugal, et le Roumain Porumboiu qui va lui aux Canaries. Commençons par celui-ci, Eva. Un policier aide un malfrat à s'échapper de prison, ça s'appelle La Gomera.
Oui, alors j'ai envie de dire qu'il s'en sort bien de, entre guillemets, l'expatriation, parce qu'il s'en fiche. C'est un hommage au film noir, et on est dans l'artifice, même son propre pays. L'histoire se déroule entre la Roumanie et les îles Canaries, parce que l'argent n'a pas de frontières. Oui. Mais on est dans l'artifice, même son propre pays. Ce qu'il en montre est stylisé. L'idée, c'est de faire un hommage au film noir, et les Canaries servent parce qu'il y a un prétexte, qui joue pour le scénario. Il y a là-bas une sorte de langue secrète, en quelque sorte, où les gens s'expriment par sifflement. justement. Donc c'est très très bien pour des malfrats.
Donc là c'est réussi, c'est un peu moins réussi chez l'Américain.
Je dirais que c'est réussi, je dirais que ça entre dans l'artifice du film. En fait, c'est pas une vraie expatriation, il va ailleurs parce qu'il est dans son fantasme dans son fantasme du film noir. Oui. Irasak, c'est autre chose. On est dans la coproduction. Irasak, c'est peut-être pas connu du très grand public, c'est du New-Yorkais pur jus. Oui. C'est pas à la manière du Woody Allen, c'est autre chose. Tout était nu. Un de ses plus beaux films, c'est Love is Strange. Il montrait un vieux couple d'homosexuels et c'était formidable. Là, il va tourner au Portugal. Donc, il y a une histoire qui justifie le scénario international. Une actrice qui est très malade veut ses dernières vacances, peut-être, possibles, avec ses proches là-bas. Il y a donc Isabelle Huppert, il y a Pascal Grégory, il y a l'américaine Marisa Tomei, formidable acteur irlandais Brendan Gleeson. La question, c'est, il y a pas de scandale, il y a pas mort d'homme, mais c'est, on dirait que qu'il est tétanisé par le décor, qu'il est tétanisé par le fait de ne pas être chez lui, qu'il n'arrive pas à faire vivre des émotions, à faire vivre un texte, qu'il ne sait pas quoi en faire. Et c'est assez extraordinaire. Encore une fois, je veux dire, il y a pas de quoi hurler au scandale. Ouais. C'est très étonnant de voir que le cinéma est une alchimie fragile, en fait. Par moment, vous déplacez de 5 mètres, ça va pas. Et ben quand on te déplace de beaucoup plus, c'est difficile.
Merci Eva Béton. On vous retrouve évidemment demain pour parler de ce festival de Cannes. Ce soir, Cannes à la puissance Tarantino, 25 ans après la Palme d'Or de Pulp Fiction. Comme promis, la réouverture du musée des Beaux-Arts de Dijon et ce reportage d'Isabelle Pasquier entre statues et troubadours.
Je te salue, ma belle Dijon, aux maîtresses burgondes.
À Dijon, le palais des Ducs de Bourgogne, qui abrite le musée des Beaux-Arts avec des chefs-d'œuvre du Moyen-Âge à l'art moderne, se réinvente un visage. Nouvelle scénographie, plus de 1000 œuvres restaurées, la très érotique dame à sa toilette du XVIe siècle et la japonaise au bain de Tissot sont magnifiées dans ce nouvel écrin. David Liot, directeur des musées de Dijon.
Grâce à un très grand projet, ce musée aujourd'hui est un musée comportant des atmosphères extrêmement variées qui permettent à tous les visiteurs un voyage dans le temps tout à fait unique. Il y a ce lien entre les arts qui devrait extrêmement séduire les prochains visiteurs.
Les stars du musée, ce sont les pleurants du tombeau de Philippe Le Hardy, sublime figurine en albâtre, enveloppée dans leur chagrin. À côté d'eux, l'artiste franco-chinois et dijonnais Yan Peiming a accroché d'immenses portraits de sa mère récemment décédée.
Quand je perds ma maman, j'ai immédiatement imaginé ce projet-là. C'est un triptyque. L'angoisse, effroi et espoir. Voilà, la peinture peut tout dire.
Cette exposition pour l'inauguration du musée, Yan Peiming l'a intitulée « L'homme qui pleure ». Sur une toile, un homme debout crie face au ciel vide, le cri de notre époque. Son titre, « No comment ».
Et donc, allez à Dijon voir ce musée des Beaux-Arts rénové. Allez, un hommage à Niki Lauda pour finir, le grand pilote de Formule 1 qui vient de disparaître. Hommage de son ancien coéquipier et adversaire, Alain Prost.
C'est un choc énorme. Quand vous connaissez quelqu'un depuis à peu près 40 ans, c'est pas rien. On a vécu des périodes incroyables ensemble. Bon, lui a vécu des périodes dramatiques, douloureuses, et tout ce qu'il a connu après son accident et puis toutes ses opérations. Mais c'est resté le même homme avec un courage absolument incroyable, une fidélité en amitié incroyable. Moi, j'ai vécu deux ans en tant que coéquipier avec lui. Il m'a appris énormément. C'est un pan de l'histoire qui s'en va, mais c'est surtout un vrai ami, peut-être un des seuls vrais amis que j'avais depuis longtemps en Formule 1.
Niki Lauda laissera quelle empreinte sur la Formule 1?
Il est de la race des seigneurs. Il y a des champions, il y a des gens qui ont des palmarès, mais c'est un seigneur, voilà, c'est tout.
Cet hommage à Niki Lauda, recueilli par Fabrice Abgral.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas.
L'amélioration se confirme, mais les belles éclaircies sont parfois entrecoupées de nuages menaçants qui donnent des averses et même des orages sur leur passage. Ces averses localement orageuses sont surtout à craindre entre l'Île-de-France, la Vendée, le nord de la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne ainsi que l'Aveyron, mais aussi en Alsace, sur les Alpes, voire sur l'ouest des Pyrénées. Quelques averses peuvent aussi toucher la Côte d'Azur par débordement ainsi que les hauteurs de la Corse. Sur le reste du pays, le risque d'averses est nettement plus faible et on profite surtout de belles éclaircies. Sous l'impulsion des brises de mer, le ciel est même quasiment tout bleu sur l'ensemble du littoral. Les plages méditerranéennes sont aussi bien ensoleillées, mais c'est le Mistral et la Tramontagne qui soufflent. Cet après-midi, les températures se rapprochent des normales de saison, variant entre 16 et 22 degrés en général, avec 19 à 26 degrés autour de la Méditerranée.